Music du Monde. Laurence Alois. Musique du Monde sur RFI.
Bienvenue dans les Musiques du Monde avec deux invités aujourd'hui. Sacha Sieff pour le Kiosque d'Orphée. Il a fait une compilation hallucinante de musique autoproduite en France dans les années 70-80. Il y a des perles et puis d'autres morceaux sont très très déroutants. Notre premier invité est le guitariste routard franco-américain Cory Sesnek, un musicien baroudeur qui a vécu 3 ans en Éthiopie, qui a séjourné au Mali, qui est fou dingue de la musique kényane des années 50 et de celle du Malawi. Bref, un connaisseur. Il sort un nouvel album, Deep of Time, et c'est en guitare-voix qu'il va faire la sérénade dans la session live, toujours au grand studio avec de lourdes tentures noires pour se préserver des convulsions du monde. Bonsoir.
So others wouldn't die. Prophets gotta follow that shining light, reaching for the answers in the astral heights. Gotta get clean in the face of the lies. Gotta do what's right before she says goodbye. Shows it to be true. Be the folly that becomes a norm. If you see the light in the middle of the storm, be the folly that becomes a norm. Who sees a way in the middle of the storm?
Objector, who sees a way? Ok, c'est bon pour moi.
Cory Sesnek sur RFI dans les musiques du monde pour la session live.
Music du monde. La session live.
Cory Sesnek qui vient d'interpréter en guitare-voix puis avec des clochettes aussi autour de la cheville, on n'appelle pas ça des clochettes, le titre Trailblazer. Bonjour Cory.
Bonjour Laurence.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ouais, une merveille, un exploit. Ouais. ça ne s'appelle pas des clochettes ce que vous êtes mis autour
non,
de la cheville?
Bon, c'est des noix en fait. C'est
des noix, des noix de cajou, ouais, des noisettes, des noix?
C'est des noix, c'est des noix tropicales. Je les ai... En fait, à l'origine, je prends des ongles de chèvre qu'on j'ai acheté quand j'étais en Bolivie. Et c'était génial. Par contre, je les ai prêtés à un ami. Du coup, j'ai ça en remplaçant en fait, cette espèce de...
Vous voulez dire que vous êtes venu sans les ongles, sans les sabots
sans
de chair.
Sans mes ongles, ouais.
Vous ressortez immédiatement.
Ouais, je sais, je suis viré.
Non. Viré. Ouais. Oh là là. Bon, Cory Sesnek, je crois que c'est la première fois que vous passez dans cette émission.
Oui.
Vous sortez un quatrième album. C'est pour ça que je dis c'est la première fois, je suis étonné. Est-ce que vous avez fait des études d'ethnomusicologue ou
non,
pas du
tout?
Non,
je suis plutôt historien de base. Je suis musicologue par les exploits, les voyages, le terrain, la
street
recherche.
Wise.
Street musicology, quoi.
Ouais,
enfin, c'est ça.
Forest wise.
C'est ça, c'est exactement ça. Alors peut-être un jour, j'irai faire un vrai... un programme de musicologie à un moment donné, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça me botte juste de le faire comme ça et faire des recherches par mes petites mains.
Vous avez un jeu assez spécial que je trouve vraiment beau. Là, sur le titre qu'on vient d'écouter, on pourrait éventuellement penser qu'on part du côté du Mali.
Oui, tout à fait. Ouais.
Les petites guitares.
C'est une vraie influence. Alors moi, je suis un peu dans la... J'aime bien trafiquer les sons, fusionner, mélanger, métisser les sons. Là, en l'occurrence, j'ai un jeu, si je vais expliquer, décortiquer un petit peu ce que je fais, c'est... Je suis un peu dans le picking à l'américaine, on va dire, dans le jeu du pouce. Donc c'est très folk un peu américain, blues américain. Sauf que la gamme et tout ce que j'utilise, c'est vraiment Alifarka Touré ou les Sorae du Mali, du nord du Mali. Donc c'est sûr que je suis vraiment dans ce mélange.
Vous avez d'autres sources aussi? J'ai écouté et vu que la musique kenyane rurale des années 50 vous plaisait. Donc c'est le Mutibu qui a été inventé par Georges Mukabi.
Ah,
je ne sais
plus
s'il est toujours de ce monde d'ailleurs.
Non, il est mort il y a très longtemps. Mais c'est un peu comme Django Reinhardt, c'est un peu le innovateur, c'est le pionnier, c'est celui qui a un peu déclenché ce style au Mutibu du Western Kenya.
Le Zimbabwe vous plaît aussi?
Ah, j'adore. J'adore.
Alors, comment on joue de la guitare au Zimbabwe, de le style Chimurenga,
ouais,
qui veut dire pas mal de choses?
Donc, il y a un des pionniers de ce style, c'était Jonah Sitole, qui faisait de la guitare électrique en imitant les Mbira, les pianopousses, des peuples Shona. Et ils ont électrifié ce truc-là. Mais en fait, il y a aussi des guitaristes acoustiques qui déploient un peu un style qui imite un petit peu les rythmiques du Shona.
Et alors, je peux vous demander si vous avez mis les pieds sur le continent africain? Je vous dis ça parce qu'il y a eu des expos en Afrique du Sud sur Picasso qui n'a jamais foutu les pieds en Afrique, mais qui, à partir de cartes postales, etc., a peint des masques absolument sublimes.
Oui.
Mais
oui.
Il ignorait tout. Enfin, il n'a jamais mis les pieds.
C'est incroyable.
Et vous?
Alors, j'ai quand même voyagé un peu en Afrique. Pas autant que je voudrais. J'ai voyagé en Afrique de l'Est, j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest aussi, juste par l'intérêt d'aller découvrir un peu la musique et les gens et voyager, quoi. Donc j'ai fait un peu un petit projet de recherche aussi au Kenya pour aller rencontrer des derniers, mais en fait c'est pas vraiment les derniers. Il y en a qui continuent à jouer ce style au Mutibu, le style un peu guitare acoustique de Kenya occidental, Western Kenya. Mais j'ai quand même rencontré quelques vieux de la vieille et c'était incroyable de pouvoir les rencontrer, les interviewer et puis un peu voir comment ils faisaient vraiment de près.
Donc c'est indispensable. Vous les enregistrez?
Oui, j'ai même un petit documentaire que j'ai fait qui s'appelle au Mutibu. C'est un ami espagnol qui l'a réalisé, qui s'appelle Gonzalo Guajardo.
Oui, les pattes.
On est partis ensemble faire ce film. Un peu, c'était un peu à lubie quand j'étais en Éthiopie. Je me disais, je suis pas loin en fait, je suis à une heure de Nairobi. Et ensuite, on a tout mis en place assez rapidement. Et avec un ami qui m'a vachement guidé, c'était Cyrus Moussavi, un gars à New York, qui a déjà fait un peu, avait déjà voyagé un petit peu dans ces coins-là et interviewé un peu les mêmes gens. J'ai pu faire un peu pareil. Donc c'était vraiment incroyable et une aubaine pour moi de pouvoir partir comme ça.
Et comme vous avez passé 3 ans en Éthiopie, vous êtes un des poupons de la série éthiopique de Francis Falsetto, c'est vous de la musique alors?
J'adore, c'est vrai que c'est incroyable cette série. Grâce à Falsetto, ça a fait découvrir toute la musique éthiopienne à au monde occidental. C'est vrai que sur place, on découvre toutes les autres musiques qu'il y a, forcément, dont les musiques traditionnelles. Moi, j'ai fait des voyages avec des équipes en Éthiopie, où ils enregistraient des enregistrements de terrain, et ils ont fait un documentaire aussi, un truc qui s'appelle Out of Addis, qui est magnifique, c'est un très très beau film qu'un autre Espagnol ami a tourné. Et on a découvert toute la splendeur de la musique traditionnelle. Bon, après, parfois, c'est dur à écouter, il y a des gammes tendues tout le temps, etc. Mais pour moi, c'était vraiment une ouverture incroyable, surtout pour moi qui ne connaissais... Il n'y a pas vraiment de tradition de guitare en soi en Éthiopie. C'est plutôt soit les instruments traditionnels, soit le jazz, soit ce qu'on pourrait parler du jazz un peu fusion avec les synthés et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même découvert des guitaristes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup un guitariste de Malawi. Il n'est pas très connu, mais c'est un peu mon héros. Il s'appelle Daniel Kachamba. Il est décédé en 87, à 40 ans. J'ai plusieurs un peu héros comme ça au niveau de la guitare, et c'en est un. Et c'est juste dommage parce qu'il devrait être plus connu et avoir plus d'estime qu'il n'a.
Il faudrait écrire un bouquin pour Corey.
Je travaille dessus.
Oui, super. Each and every day go round and round and round and round. Deep, deep, deep in the deep of time. Gonna pick what's left of my big bridges off the ground and kiss myself goodbye. Dust off my boots and take my saddle from the wall. Lead my pony up into the starry night. Gonna lasso the man on the moon and put him in my pocket. Surf the solar wind and fly so high. Deep of Time, c'est le titre de votre album et puis du morceau qu'on vient d'écouter, extrait de cet album. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ?
Ça parle en fait des abysses du temps. Moi, j'ai commencé cet album bien avant le Covid, mais je l'ai produit, je l'ai réalisé avec deux amis pendant le Covid, Jean-Étienne Lousse et Geoffroy Doptin. On a décidé de vraiment prendre le temps de faire quelque chose. Et je trouvais qu'il y avait une inertie incroyable. On ne savait pas, la suite, on ne la connaissait pas. On ne savait pas où on en était dans ce métier. Et du coup, moi, j'ai un peu pété un câble dans le sens où je me suis inventé un personnage un peu onirique, un peu le cow-boy astral qui est parti dans les cieux pour se sortir, s'extraire de ces abîmes du temps. Voilà.
David Bowie sortait de ses corps. Le Major
oui,
Tom, c'est fini.
Exactement.
Bon,
voilà, je pompe tout. Hein.
Je vois aussi que vous vous référez à Aldo Leopold,
beaucoup.
Défenseur de l'environnement.
Absolument.
Voilà. Et donc la voix, la guitare, l'écriture, ouais. Ça vient comment ?
Alors
en
ça,
même temps
c'est quelque chose que je faisais depuis très longtemps et j'ai toujours été passionné de la musique et j'avais fait 8 ans de piano classique, petit, et j'avais pris la guitare plus comme forme de liberté où je pouvais faire ce que je voulais dessus. C'était un peu ma petite zone de liberté, j'ai envie de dire, où je pouvais me réfugier, faire la guitare, c'était pour moi. Et par contre, à un moment donné, c'est devenu très fort, c'était à la fac où, quand j'ai découvert toute la riche musique folklorique aux États-Unis. Et j'étais vraiment très curieux au niveau des traditions de guitare et tous les styles de guitare différents, dont le blues et le ragtime, mais aussi les guitares un peu country de Merle Travis, la country jazz, on appelait ça, Merle Travis et Chet Atkins, des trucs comme ça. Et forcément, et à un moment donné, j'ai découvert Blind Snooks Eaglin, le guitariste de New Orleans, qui était un peu un jukebox humain, incroyable. Il faisait tout plein, il avait un répertoire super large, mais un jeu de guitare tellement intéressant, tellement à lui, vraiment. Et tout de suite, voilà, ça m'a totalement explosé la tête. Et c'est comme si j'étais parti de la Nouvelle-Orléans pour aller vers l'Afrique. Voilà, j'ai largué les amarres et je suis parti en Afrique de l'Ouest pour découvrir tous les guitaristes là-bas. Et puis ensuite, à un moment donné, j'ai découvert les guitaristes kényans, plus les traditions malgaches, etc., etc.
Vous avez vu qu'il y avait quand même une grosse différence entre l'Est et l'Ouest en Afrique.
Harmoniquement, hein. Stylistiquement, il y a une grosse différence.
Ouais. Rien à voir.
Rien à voir. Et bizarrement, d'ailleurs, je trouve qu'il y a plus de similarités harmoniques entre la guitare kényane et la guitare picking américaine, parfois. Les gars qui prenaient des guitares et ils se mettaient à jouer des morceaux, parfois ils écoutaient Jimmy Rogers et tout comme ça. Il y avait ça qui passait à la radio aussi, donc... C'est comme Johnny Hooker qui passe à la radio et Boubacar Traoré. Ah ouais, ça c'est bien, ça, je vais prendre ce plan-là, ou Ali Farka, etc. Il y a plein d'artistes et guitaristes vraiment avec des styles à eux, vraiment ils étaient tout seuls à bricoler leur style là où ils étaient. Et donc ça m'a parlé vraiment, leur petite identité à eux. Et, plutôt que de dire, voilà, moi je vais faire mes plans de jazz au conservatoire. Non, c'est un gars qui a fait la rumba congolaise sur une guitare acoustique au milieu du Malawi, avec un son qu'il a bricolé, innové lui-même. Donc,
vous avez fait du conservatoire ?
Non, enfin, j'ai fait du piano classique, j'ai pas fait du conservatoire. Mon fils fait le conservatoire en ce moment, et je vois les avantages et les inconvénients.
Ça a dû vous embêter, enfin, comme tout le monde, comme la terre entière, cette période de pandémie, parce que j'ai l'impression que vous avez vous avez un peu la grimpette au corps, là. Il faut vous bouger, vous êtes en Éthiopie, vous êtes en Afrique,
alors,
les États-Unis.
Alors ça, c'était un gros choc. J'en parlais justement avec un ami que vous connaissez, c'est Vincent Buchet, je crois,
normalisé. Ah oui, un petit peu.
Oui, juste un petit peu. Et lui, il me parlait de ça, c'était cette notion d'en fait, au sein de l'humain, on est à la fois nomade et sédentaire. Moi, j'ai ça, c'est sûr. Il y a des moments où je suis très content d'être à la maison avec les petits et faire mes choses. Et il y a des moments où je suis pris par un espèce de désir d'aller voir le monde. Et c'est sûr que ce n'est pas tout le temps évident. Surtout ces gens, avec le changement climatique, on se dit « Ah, il ne faut pas que je prenne l'avion et machin. » Mais en même temps, je me dis « Ah, mais j'ai envie de partir au Malawi. » Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui s'installent en ce moment qui sont compliqués, je trouve. Donc, la chanson que je vais chanter après, « Plouk Mama », ça s'appelle, c'est une bretonne qui... J'ai inventé un espèce de personnage, mais c'est basé sur des vraies personnes qui sont parties, qui ont été embarquées pour aller à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle. Il n'y avait pas assez de main-d'œuvre, il n'y avait pas assez de femmes. Et cette bretonne, elle arrive, elle tombe amoureuse d'un gars qui est sur place, qui peut être un, comme on disait en anglais, un person of color, et ça, c'est, ou un métis ou quelque chose. Et donc, c'était un amour interdit et machin. Ils sont partis dans le bayou. Donc, c'est basé sur un peu des mythes et sur des histoires que j'ai lues dans les chroniques aussi.
Plouk Mama, c'est pour vous, Cory Sesnek, ouais. Cet extrait de ce quatrième album, Deep of Time, que vous allez nous interpréter. Sur quel genre de guitare? Parce que vous en avez amené deux.
Oui, donc j'ai pris une guitare qui a été fabriquée par un ami au Colorado. D'ailleurs, j'ai fait exprès parce qu'il passe par... Il traverse une période assez difficile et je voulais faire un petit clin d'œil pour lui. Il fait des magnifiques guitares. Il s'appelle Bevan Frost. Et voilà, on a fait cette guitare ensemble. Mais voilà, c'est sur une guitare acoustique.
Je vous laisse. Merci. Je vous laisse le plateau. Merci, Cory Sesnek.
Avec les Indiens, que ce soit dans le sirop ou dans le sang, on va la manger. On va la manger. On va la manger. Non, mama, t'es ma petite reine. Tu peux dire que tu vaux la peine. Non, mama, t'es ma petite reine. Tu peux dire que tu vaux la peine. Bonsoir ma reine, l'heure est venue d'aller prier pour mon chagrin. Mais avant d'y aller, buvons du vin. Oh, buvons du vin. Buvons du vin. Buvons du vin.
C'était la session live de Cory Sesnek pour la sortie de l'album Deep of Time. Au son, il y avait Mathias Taylor et Jérémy Besset. Réalisation, Adrien Toureau.
Music du monde sur RFI.
Sacha Sieff est musicien, compositeur. Il est aussi le fils de l'immense photographe Jean-Loup Sieff, qui fut l'auteur, entre autres, de la sublime photo en noir et blanc d'Yves Saint-Laurent, nu comme au premier matin du monde. Bref, Sacha Sieff a mis 5 années pour finaliser une compilation intitulée « Le kiosque d'Orphée », une épopée de l'autoproduction en France, 1973-1991. Et vous allez tout savoir sur un ingénieur du son nommé Georges Battard, qui a enregistré de nombreux débutants. En vérité, peu sont passés à la postérité. Quoique, Dominique A a fait ses débuts grâce à lui.
On a Viking ship, some Vikings golden haired were sailing on the sea. Thrown in a bad tempest, and the gods were casting flashes, parting the sky. And the night was as bright as day. It was raining, it was storming, thundering, but the sailors were not afraid.
Alors là, on arrive de l'espace extérieur, quasiment avec le titre Viking par un certain Geoffroy, qui est un groupe. Ce morceau est extrait d'une compilation qui s'appelle Le kiosque d'Orphée, une épopée de l'autoproduction en France de 73 à 91. Le maître d'œuvre de cette compilation, c'est vous, Sacha Sieff. Qu'est-ce que c'est que le kiosque d'Orphée ?
Alors le kiosque d'Orphée, c'était une structure en fait où on... En gros, on envoyait ces bandes qu'on enregistrait soi-même souvent ou dans des studios quand on avait la chance de le faire. Et qui nous permettait de faire des tout petits pressages de ces disques. Ça pouvait être une copie unique, ça pouvait être 10 copies, 50, 100. C'était souvent plutôt une histoire financière, en fait, finalement, le nombre de copies qu'on en faisait. Et ça nous permettait de sortir un disque sans avoir de label. Donc, en fait, c'était un pont, une passerelle entre des compositeurs, des auteurs-compositeurs sans maison de disque
les usines de presse qui à l'époque faisaient minimum 1000, 2000, 5000, 10000, voire beaucoup plus. Donc c'était une possibilité pour pouvoir faire son propre disque.
En général, derrière ces grandes aventures, il y a un homme. Là, il s'appelle Monsieur Battard.
C'est ça, Georges Battard. Alors c'est une structure qui existait avant. Et je n'ai pas réussi à avoir exactement l'historique ou l'histoire avant, mais c'était avant dans le 6e arrondissement. Et ça a été repris par Georges Battard en 67, mais je pense que ça existait à partir de la fin des années 50. Et lui a fait déménager donc, le kiosque d'Orphée dans le Marais. Et là, il a repris l'aventure et c'est ce qui nous a intéressés, parce qu'on parle quand même des années 70 et 80 en majeure partie sur ce projet. Mais voilà, c'était Georges Battard, donc il y a un ingénieur à la base, quelqu'un de très sérieux. C'est son fils qui nous a parlé un peu de lui, Didier Battard, qui lui est bassiste, musicien, jouait pour Higelin, enfin, a une carrière effectivement en tant que musicien, qui nous racontait que son père était très consciencieux, voulait vraiment bien faire les choses et faisait un peu ça comme on allait à l'usine ou au boulot, de manière... C'était pas forcément un passionné des musiques qu'il enregistrait. Lui, il aimait la musique classique. Et c'est juste que voilà, il avait son graveur Neumann et ça lui permettait de faire des disques donc pour des écoles, des chorales, des groupes de rock, etc. Mais c'était à peu près voilà, ce type de personnage, quelqu'un d'apparemment assez sérieux, pas austère, hein, mais qui était assez consciencieux et vraiment un ingénieur, quoi.
Il y a à boire et à manger, il y a à voir et à danser. Walrus se pose quand même en pole position. Bien. C'est l'un des 23 morceaux, enfin l'un des 23 groupes que vous avez sélectionné pour cette compilation, Sacha Sieff. Ça fait référence aux Beatles, I'm the Walrus. Ce titre, Girl Like You, est sorti en 77, donc en pleine période punk. On note quand même sur cette compile que tous les Français aiment chanter en anglais, déjà.
La plupart du temps, il y a très peu de morceaux, je pense qu'il y en a deux. Où ça chante français, mais c'est souvent de la folk, un peu de cuisine. Enfin, moi, ça me plaisait pas, et vu que c'était quand même mes goûts qui parlaient pour la sélection, on trouvait ça moins fort, et on aimait bien ces petits Français avec leur accent. Lui, c'est complètement le cas, hein, Richard Maubert qui chante sur Walrus. Il y a un charme, moi, ça me rappelle Dashiell Hedayat, ça me rappelle les Beautiful Losers, des espèces de groupes comme ça, qui ont fait un peu des discovenies que je trouve, moi, charmants et très touchants. C'est vrai qu'ils étaient fascinés par par l'Angleterre, les États-Unis, la musique progressive, rock, psyché. C'était aussi peut-être le modèle américain, des groupes qui répétaient dans le garage, ce qu'on a peut-être moins aujourd'hui, notre génération là en France. Mais moi, je n'ai pas connu cette époque-là, mais c'était vraiment les copains qui jouaient ensemble et qui montaient leur groupe de rock, en fait, ou de pop un peu plus douce comme Walrus. Mais c'était un peu ça, effectivement, les Beatles, les Stones, King Crimson, Genesis, selon les époques. Mais c'était ça qui les habitait, quoi. Once upon a dream of a deal. Once upon a time, my mind. Once upon a day, she was the castaway.
La drogue, c'est mal. Sacha Sieff. C'est le groupe Crystallize avec le titre Crystallize. Alors ça m'a fait rire parce que c'est un enregistrement de 78 par des gens qui étaient au lycée Charlemagne. Et en fait, le garçon là qui joue, qui chante, qui fait des choses bizarres, on était dans la même classe.
Ce qui est assez incroyable.
Beaucoup de rock au lycée Charlemagne. Il y a eu les Arthur H, les Jacquenot, etc. C'était un lycée très touffu. Et donc là, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais comment vous avez effectué le choix
Le choix, je l'ai effectué. En fait, j'ai fait des recherches les plus larges possibles. Quand en gros, Jean-Baptiste m'a parlé du projet, donc le patron de Bandbad, on voulait parler de l'autoproduction. Et on n'avait pas meilleur prisme que le kiosque d'Orphée parce que c'est un peu la plus grande structure qui permettait d'autoproduire ses disques. Il y en a pas mal d'autres, mais c'était celle la plus significative, la plus représentative de l'autoproduction. Et à partir de ce moment-là, j'ai fouillé partout. Déjà, moi, j'avais des disques du kiosque d'Orphée avant même de faire ce projet-là et de savoir que ça allait m'intéresser parce que je trouvais les pochettes hyper charmantes, faites à la main. Il y avait quelque chose qui me parlait. Donc, qui faisait que j'avais des disques déjà assez nombreux. C'est aussi pour ça qu'il m'a contacté pour le projet. Mais j'ai fait des recherches partout, en fait, déjà sur qu'est-ce qui existait en fait sur Internet, c'est-à-dire online, qui avait plus ou moins recensé quel disque existait, la moindre pochette qui avait l'air intéressante. C'est l'histoire sans fin, le kiosque d'Orphée, c'est-à-dire qu'il y a eu des milliers de sorties, peut-être 7000, 8000. On n'a pas un réel inventaire. Il y en a peut-être quoi, 1500, 2000 répertoriés. Il y aura toujours des nouveaux disques qui sortiront, souvent très mauvais. Et parfois hyper touchant et super bien, mais voilà, en tout cas, à un moment, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il fallait arrêter, parce qu'on commençait à trouver plein de choses, mais dans des genres différents, peut-être un peu moins universels. On a essayé de prendre ce qui nous paraissait le plus homogène musicalement, le plus simple, en tout cas d'approche pour l'auditeur en général, quoi, et les gens.
Qu'est devenu Gérard Alfonsi qui chante Fanastical sur ce morceau, Sacha Sieff ?
Lui, c'est un des seuls mystères en fait, de cette compilation. C'est quelqu'un que je n'ai pas réussi à retrouver. En fait. Donc, on a fait des recherches via la SACEM, des courriers, mais forcément, il n'y était pas. Il avait le tampon SACEM sur le disque, mais il n'y était pas. Ça fait partie des quelques inconnus comme ça où j'ai remué ciel et terre pendant 6 mois en dilettante. Mais il y avait trop peu d'informations en fait. J'ai tout essayé, hein, les homonymes. Il y avait le nom d'une femme qui avait produit ce disque, qui était apparemment dentiste à la retraite, mais disparue. Et lui, j'ai remonté sa trace en Corse. Et là, c'est devenu un peu cocasse parce qu'en Corse, on se méfie pas mal des coups de fil comme ça. Enfin voilà, pour retrouver quelqu'un, en fait, on se demande toujours qu'est-ce qu'on lui veut. Et donc, j'ai dû appeler un garagiste, un neveu, quelqu'un qui me disait que c'était peut-être sa veuve qui avait monté une affaire, un bar tabac dans un village minuscule. J'appelle l'associé de cette femme qui me dit « Mais qu'est-ce que vous lui voulez ?» enfin, donc, j'ai pas réussi à avoir ces infos. Donc, lui, ça fait partie des points d'interrogation de la compilation.
Mais qu'est-ce qui motivait ces artistes à faire de l'autoproduction ? C'était quoi ? Pour laisser un souvenir à la famille ? Ou éventuellement pour se lancer, avoir une carte de visite un peu sérieuse ?
Je pense les deux, en fait. Il y en avait beaucoup qui voulaient avoir une carte de visite et qui voulaient y croire. Il y avait pas mal, après, de désillusions si ça fonctionnait pas et s'ils faisaient pas carrière dans la musique. Il y en avait qui faisaient ça aussi pour rigoler. Et lui, je pense que c'était quand même un peu pour rigoler, Gérard Alfonsi. Il y avait ceux qui n'y croyaient pas, qui faisaient ça pour le plaisir. Et il y a ceux qui espéraient plus, bien sûr, qu'ils faisaient comme une carte de visite à envoyer à des plus grands labels. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs, de la compilation ont envoyé des disques et n'ont jamais eu de retour. C'était aussi des copies de travail pour d'autres artistes. Il y a quand même des grands artistes, Jeff Gilson, Bernard Parmigiani, des musiques de films.
Dominique A.
Dominique A, bien sûr. qui lui voulait
qu'on écoutera en fin d'émission.
Oui, qui lui voulait avoir son 33 tours. Ça partait vraiment de cette idée-là, avant que le CD ne remplace le 33 tours.
En tout cas, dans ces années-là, la musique instrumentale avait sa place. C'était l'époque où Jean-Michel Jarre était en train de naître au monde. Alors on a des groupes comme Polaris, comme Boutolo qu'on écoutera juste après. Ce sont ces moments-là qui vous plaisent le plus, Sacha Sieff, sur vous aussi, votre carrière à vous.
En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, là, c'est pour moi vraiment le début du home studio. Cette époque-là, pas le home studio, bien sûr, avec un ordinateur, mais le magnétophone, le 4-piste... des synthétiseurs, une boîte à rythme, quoique là, il y a une vraie batterie. Ça me plaît beaucoup, parce que moi, je suis aussi compositeur, je fais de la musique avec ce genre d'instrument, donc c'est un peu l'homme-orchestre, quoi. Mais là, c'est vraiment le côté un peu homme-machine, quoi, qui me plaît bien, ouais, qui me plaisait bien.
Ceux qui ont vu le film Midnight Express avec la bande-son de Giorgio Moroder apprécieront. Il s'appelle Monsieur Boutolo.
Oui.
Oui. Oui, oui. D'où sort cette créature ?
Alors, cette créature a fait un disque. Il n'a pas été facile à retrouver. Il vit dans son petit village. J'ai dû passer par sa fille, par des moyens un peu détournés.
Un vrai détective.
C'était un peu le jeu, c'était aussi ça qui était excitant, c'est-à-dire de retrouver tous les Monsieur Boutolo, les Joël Boutolo, savoir lequel était le bon. C'était un peu un jeu de déduction, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a fait un disque. Après, il a fait un 45 tours qu'il a produit, un peu plus Côte d'Azur, années 80, dans l'ambiance. Et il a fait ce disque-là comme une réelle carte de visite, c'est-à-dire que je pense qu'il en a fait 40 ou 50, donc c'est vraiment microscopique. Et pas de pochette, juste un petit mot écrit des fois à la main pour l'envoyer à une radio, à un label, et c'était un peu sa démonstration, voilà ce que je peux faire, quoi. Et ça a pas, je pense, vraiment abouti, parce qu'il n'a pas une carrière, une réelle carrière, si ce n'est le 45 tours qu'il a fait derrière. Mais j'ai trouvé ça intéressant et ça rentrait dans un des axes de musique, effectivement, dont on parlait, que ce soit Jean-Michel Jarre ou Giorgio Moroder ou Klaus Schulze ou...
Tangerine Dream.
Oui, exactement. Il y avait aussi Marvista, qui est très ambiante, qui a un album qui est vraiment très, très, très beau.
Qui démarre, d'ailleurs, votre compilation, sans erreur.
Qui est un des disques qui me plaît le plus, et j'aime beaucoup le compositeur encore en vie avec qui je parle assez régulièrement, qui m'envoie toutes ses nouvelles créations. Et il y a certains comme ça, il y a eu des connexions qui se sont faites avec certains des artistes du projet, et enfin voilà, de ce qu'ils font aujourd'hui, parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que tous ces gens-là, c'est quand même souvent des disques qu'ils ont fait en étant extrêmement jeunes, entre 15 et la vingtaine, allez, des fois 25 ans, c'était déjà vieux pour eux, quoi. Donc c'est vraiment les balbutiements de leur musique. Et la première chose que m'ont dit à peu près 90% des gens que j'ai contactés, c'était « mais je continue à faire de la musique, c'est vachement mieux en fait aujourd'hui ». Après, c'était compliqué de leur dire que ce qui nous intéressait, c'était le côté historique et de la démarche de leur innocence, du côté un peu bancal de certaines choses. C'était pas parfait, c'est pas magma, quoi. On n'est pas dans la... C'est pas les meilleurs musiciens de France pour la plupart. Mais ça, enfin, moi, je m'en fiche complètement et c'est nous ce qui nous a parlé pour le projet. Mais en tout cas, voilà, lui, j'ai trouvé son album vachement intéressant et très proche d'autres musiques qu'on avait. Et ça crée un petit peu un fil entre lui. Il y avait Alain Meunier, Didier Bocquet, effectivement Polaris qu'on a écouté avant et Joël Boutolo. Pour moi, c'est les quatre morceaux, on va dire, un peu synthétiques, cosmiques. Voilà, famille Moroder. Ce genre d'artiste, quoi.
Ah, maintenant, on a la famille Quepon avec le groupe Spotch Forcé, le titre Frustré. Excellent.
Frustré ! Frustré quand il ne reste que l'ennui. Frustré quand la seule arme est le cri.
jusqu'au plus profond de ton ventre, de ton ventre.
Ils doivent être très jeunes, en effet. Quoi, il s'agit d'un certain Jean-Marie et d'un certain Gilles Dumont, Jean-Marie Baume, qui ont fait ce groupe, Spots Forcés Frustrés. Qu'est-ce qui vous a amusé, là? C'est le côté...
C'est le côté un peu fou, en fait.
Peu destroy, on disait.
Ouais, destroy.
Il y a 40 ans.
On sent qu'ils s'en foutent, quoi. Qu'ils veulent vraiment faire... C'est presque un groupe de performance. Et c'est un disque, ça, pour le coup, qui m'avait intéressé bien avant le projet, parce que je le trouvais dingue, justement. C'était un pont entre le punk et aussi la cold wave. Et il y a aussi un côté un peu électronique, d'expérimentation. Et c'est drôle, parce qu'un des compositeurs, Gilles Dumont, avec qui j'ai pas mal échangé... quand il s'agissait justement d'écrire un peu l'histoire du groupe, etc. Et hyper posé aujourd'hui, hyper calme. J'ai trouvé ce disque hyper fou, quoi. Complètement à côté et assez génial. Et l'histoire est assez intéressante aussi.
Ouais, racontez-nous l'histoire alors, si elle est intéressante.
Il m'a raconté que voilà, en gros, ils sortent le disque et qu'ils le distribuent comme ils peuvent. C'est pas forcément évident. Et ils le mettent à la sauvage dans les Fnac. C'est-à-dire qu'ils vont quand même déposer leur disque qui leur a coûté du pognon. Ils le mettent gratuitement dans les Fnac pour que des gens puissent le prendre. Mais forcément, la Fnac ne met pas de prix dessus parce que ça n'appartient pas, enfin, ça ne fait pas partie de l'inventaire, du catalogue de leurs disques qu'ils ont à vendre. Je ne sais pas, je trouvais l'idée vraiment drôle, quoi. Enfin, un peu loufoque, quoi.
Une des rares femmes de cette compilation, elle s'appelle Chantal Weber. C'est une de celles qui chante en français avec Balade aux châtaignes tombées. Ça ne s'invente pas.
Les châtaignes tombaient des branches quand nous nous sommes rencontrés. Mes cheveux sur ma robe blanche ravivaient un soupçon d'été. Quand nous nous sommes rencontrés, tu t'abreuvais de liberté. Mais depuis mon premier baiser, tu es un peu mon prisonnier. Malgré le vent, malgré l'automne, tu aimais rire. Et tu mariais aux consonnes des voyelles enchevêtrées. Tu aimais rire, aimais chanter. Tu n'oses même plus parler. Tu comptes les heures passées. Tu es un peu mon prisonnier.
Chantal Weber avec sa balade aux châtaignes tombées. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Toujours pas dans le circuit parce que je...
Non, je pense pas qu'elle soit encore dans le circuit. Après, c'est vrai que là, j'ai pas forcément le souvenir exact de ce qu'elle fait. J'ai parlé à tous les intervenants, mais j'ai parlé à tellement d'intervenants et d'autres gens qui ne sont pas sur la compilation que je connais pas leur curriculum vitae par cœur ou j'ai pas forcément le souvenir. Mais
ils ont pas tous fait carrière, quoi.
Il y en a qui sont devenus profs au conservatoire, d'autres qui ont complètement changé de métier. Qui ont ouvert des restaurants. Enfin, chacun a vécu une vie assez différente et quelques-uns, en tout cas, ont continué. Ceux qu'on connaît, ceux qui sont connus ou qui sont devenus connus. Mais non, cet album, moi, c'est un album qui m'a particulièrement plu, en fait. J'ai bien aimé, en fait, tous les arrangements. Il y a pas mal de morceaux sur cet album qui sont vraiment intéressants. Et toute la musique a été faite d'une manière instrumentale. Et ils sont allés chercher cette chanteuse après, en fait. Ils ont fait des castings, le texte était écrit, les musiques étaient faites et il fallait une interprète pour pouvoir donc chanter ces textes. Et elle a été trouvée un peu comme ça au hasard, après de longues recherches. Et je trouve l'album comme ça justement un peu étrange parce qu'enregistré en deux parties, quoi. Un peu comme si on avait fait le morceau, le backing track et qu'après on allait enregistrer les cordes. Sauf que là, c'était la voix qui était faite après, ce que je trouve assez rare. J'ai trouvé la démarche assez originale. J'aime bien comme ça la musique un peu imagée et qui part un peu dans tous les sens, quoi.
Et sur ces 23 titres, il y a un certain Jean-Claude Zemmour. Je l'ai sélectionné vraiment à cause de son nom.
Quand je vois sur toi, moi je m'emballe. Et puis je galope comme un cheval. Quand je vois sur toi, moi je m'emballe.
Jean-Claude Zemmour sur RFI, aucun rapport avec le journaliste politicien?
Non, aucun rapport. Voilà. Après, il y a beaucoup de Zemmour.
Dupont-Durand, d'accord.
Exactement.
Parmi les artistes qui ont percé, qui ont commencé par l'autoproduction, on a parlé durant cet entretien de Dominique A. J'ai vu qu'Andy Emler aussi était passé par là. Mm-hmm. Dominique A parle aussi sur le livret de cette compilation. Il parle de la délicatesse. Je crois que c'est M. Bâtard qui l'a rencontré. rencontré. Il avait travaillé le son pour rendre... Enfin, il avait masterisé ce que lui avait envoyé Dominique A. Quelles étaient les relations qu'il pouvait entretenir avec les musiciens qui arrivaient avec beaucoup d'espoir, des pochettes faites à la main, etc.
Bah, les pochettes, à la limite, il ne les voyait pas forcément parce qu'elles étaient faites dans un deuxième temps. Mais, oui. mais lui, son but, et en étant voilà, un ingénieur consciencieux et un vrai bon professionnel, c'était de faire en sorte que le son soit le meilleur possible. Donc de rattraper aussi les erreurs, et c'est ce que raconte Dominica dans le livret, c'est que lui, il enregistre ça avec les moyens du bord, c'est-à-dire vraiment un clavier arrangeur où il y a tout dedans. Quoi.
Il a continué après. Hein.
Pour lui, effectivement, il ne savait pas qu'il fallait masteriser, qu'il y avait un mastering à faire pour le vinyle, qui est en plus très différent d'un mastering CD. Et c'est vrai que c'est le morceau le plus tardif de la compilation, c'est 91, et c'est à peu près la fin du Kiosque d'Orphée. Donc c'était comment mieux finir la compilation qu'avec le, quasiment un des derniers disques qui avait été fait. Ce qu'il raconte, c'est que voilà, lui pensait que le son était vraiment pas bon, qu'il avait des trucs distordus, un peu sales, et il a été vraiment agréablement surpris parce qu'il a réussi à corriger un peu d'une manière enfin voilà, fréquentielle, en enlevant un peu par-ci ou en coupant, en mettant un coupe haut ou un coupe bas. On n'a pas les détails, mais en gros, il faisait au mieux pour que le son ne soit pas trop dégueulasse. Et soyons honnêtes, il y a quand même beaucoup de disques sur le Kiosque d'Orphée qui sont charmants, mais qui sont, d'un point de vue sonore, qui sont mal enregistrés en fait. Sur ce projet-là, le premier morceau qu'on a écouté, Geoffroy, ils sont vraiment allés dans un studio, ils ont économisé pour enregistrer. Et ça s'entend. Le son est vachement mieux. C'est un peu plus produit. Mais tout le reste, c'est quand même des gens dans des chambres d'ados, dans le salon familial ou dans une salle de classe qu'on leur a prêtée ou un théâtre. C'est-à-dire que des fois, effectivement, il y a des coups de main, il y a quelqu'un qui va justement... Walrus, c'est ça. On leur prête un théâtre parce que le patron, le directeur du théâtre est parti en vacances et l'ingénieur du son du théâtre leur donne un coup de main. Ils ont deux magnétos, ça permet de faire des effets. Mais quand ils n'ont pas ces coups de main-là, c'est quand même des moyens rudimentaires, quoi. Donc ça s'entend. Mais donc, ils faisaient ça comme un technicien et de manière voilà, consciencieuse et en essayant de rattraper les erreurs quand il y en avait.
Merci, Sacha Sieff. Je rappelle que votre disque, enfin, la compilation que vous avez produite, elle s'appelle « Kiosque d'Orphée, une épopée de l'autoproduction en France de 1973 à 1991 ». Et on va terminer avec Dominique A. quand il était bébé. Et le titre, c'est « Silence entre nos larmes ». Merci, Sacha.
Merci.
Silence entre nos larmes, tu ne m'as jamais compris. Tu restais près de moi, c'était un leitmotiv. Après ce que j'avais fait, tu pleurais. Tu connais mes colères.
Tous les artistes qui sont passés dans cette émission sont sur la page d'accueil de Musique du Monde, une émission que vous pouvez écouter et réécouter à l'envi. Tout est sur RFI, sur Pure Radio. Allez, au revoir.
Les mêmes gestes.